VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité. Voici les principales nouvelles du monde. Ouverture aujourd'hui à N'Djamena du procès d'une dizaine de militants présumés du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Arrêtés à la suite du double attentat suicide du 15 juin qui avait fait 38 morts, dont 3 kamikazes et 101 blessés dans la capitale tchadienne, ils sont accusés d'association de malfaiteurs, assassinat, destruction volontaire à l'aide de substances explosives, entre autres. L'audience inaugurale s'est poursuivie à huis clos. Pour les précisions sur les suspects, Timothée Donangmaï a joint N'Djamena, Daniel Dezombé Passalé, président de l'ONG Droits de l'Homme sans frontières.
Il y a des étrangers mélangés aux Tchadiens parce qu'on a dit à plusieurs occasions que certains Tchadiens ont impliqué Boko Haram. Parce qu'on était presque convaincus que sans que certains Tchadiens soient impliqués, Boko Haram n'allait pas pouvoir faire des exactions, faire des explosions au Tchad.
Parmi les suspects, le leader présumé du groupe, un certain Mahamat Mustafa, qu'a-t-il dit à la barre?
Ce qui est grave et surprenant de la déclaration de ces gens, de façon unanime, ils disent qu'eux, ils sont là en train d'être jugés pour leur activité terroriste, mais si par hasard ils sont acquittés, ils vont repartir du côté de Boko Haram pour reprendre leur activité. C'était un peu surprenant qu'un être humain puisse s'engager pour dire que je vais faire mourir d'autres personnes.
Daniel Dezombé Passalé, président de l'ONG Droits de l'Homme sans frontières, joint à N'Djamena. Deux membres présumés du groupe islamiste nigérian Boko Haram se sont fait sauter alors qu'ils tentaient d'échapper à l'armée tchadienne qui les poursuivait. Hormis les djihadistes, personne n'a été tué, rassure une source militaire citée par l'AFP. L'incident s'est produit hier soir sur l'île de Kaigan-Gouboua du lac Tchad. Une attaque de Boko Haram a aussi été signalée dans le nord-est du Nigeria. Deux kamikazes, un homme et une femme à bord d'un rickshaw, ont tué un soldat à un poste de contrôle à la périphérie de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno. Ils ont déclenché des explosifs qu'ils transportaient alors qu'un soldat tentait de les arrêter. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, a annoncé qu'elle cesserait en septembre de nourrir près de 7000 ex-rebelles congolais et étrangers. L'Organisation des Nations Unies dit manquer de fonds et que c'est au gouvernement de Kinshasa de prendre le relais. Explication Michel Joseph.
6800, c'est le nombre de combattants que la MONUSCO nourrit, soit 2 millions de dollars par mois. Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a le mérite d'être clair. L'hémorragie doit cesser. Son bureau est en train de négocier avec le gouvernement de Kinshasa pour arrêter les livraisons à partir du 15 septembre dans une partie des camps. Les autres camps suivront le 30 septembre. Il faut savoir que les ex-rebelles comptent également des femmes et des enfants. La MONUSCO gère un programme de désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation des rebelles étrangers. La gestion des camps d'ex-combattants, congolais ou non, revient à la RDC et la MONUSCO apporte une aide alimentaire et logistique. La MONUSCO, une des plus grandes missions onusiennes au monde, avec quelque 20 000 hommes, est dotée d'un budget annuel de 1,4 milliard de dollars, n'a pas suffisamment d'argent pour nourrir les ex-combattants.
Le président sud-soudanais Salva Kiir a finalement signé aujourd'hui l'accord de paix visant à mettre fin à 20 mois d'une terrible guerre civile au Soudan du Sud. Un document déjà ratifié le 17 août par les rebelles. Claire Morin-Gibourg.
Après plus de 18 mois de pourparlers longtemps stériles, le président Salva Kiir a finalement signé l'accord de paix. Il a néanmoins émis de sérieuses réserves, disant rejeter des dispositions de cet accord qu'il qualifie de néfastes, dont celles prévoyant la démilitarisation de Djouba ou la large représentation des rebelles dans le cadre du partage du pouvoir local dans l'état pétrolier du Haut-Nil. Alors que les rebelles avaient signé l'accord le 17 août dernier, ces réserves de la présidence tempèrent les espoirs d'un retour de la paix. Le document prévoit notamment un mécanisme de partage du pouvoir durant une période transitoire de 30 mois, au cours de laquelle un poste de premier vice-président sera attribué aux rebelles. Il est probable que ce poste revienne à Riek Machar, que Salva Kiir avait limogé de ce même poste de vice-président 6 mois avant que n'éclate la guerre civile.
Au Burundi, premier discours du président Pierre Nkurunziza dans le cadre de son nouveau mandat controversé. En 13 minutes, il est revenu sur les grands axes de son quinquennat, soulignant que la paix et la sécurité restent sa priorité. Reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Le président burundais est revenu comme le jour de sa prestation de serment il y a 6 jours sur le combat que les forces de l'ordre et la justice vont mener contre ceux qui créent l'insécurité au Burundi. Il a précisé que cette tâche sera terminée en 2 mois. Il a rappelé que le programme de désarmement de la population va continuer ainsi. Dans cette optique de la paix et de la sécurité pour tous, le président Nkurunziza a indiqué qu'un service civique obligatoire sera mis sur pied pour les élèves du secondaire et des étudiants sans donner plus de précision. En ce qui concerne les travaux de développement, le président burundais a réitéré le vœu de construire 5 barrages hydroélectriques sur les fleuves Murembwe, Manda, Kaburantwa et Djidji, comme il avait promis au moment de sa prestation de serment en 2005. Pierre Nkurunziza n'a pas oublié de mentionner la construction du chemin de fer qui partira de Gitega au centre du pays, en passant par Musongati à l'est du pays, où se trouvent les minerais de nickel jusqu'à Kigoma en Tanzanie. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Nouvelle attaque dans le Sinaï égyptien. Des hommes armés circulant à moto ont ouvert le feu sur 2 policiers à Al-Arich, chef-lieu de la province du Nord Sinaï. Les victimes sont mortes de leurs blessures. Une attaque revendiquée par la branche locale de l'organisation État islamique, affirme le ministère égyptien de l'Intérieur. Ici aux États-Unis, la chasse à l'homme a pris fin pour un tireur qui a ouvert le feu sur une équipe d'une station de télévision, faisant 2 morts. Le tireur présumé Vester Flanagan, alias Bryce Williams, est un ancien employé de la station. Il s'est tiré 1 balle quand la police l'a confronté non loin de Washington. Auparavant, les médias avaient annoncé sa mort, mais Flanagan a survécu et est maintenant hospitalisé dans une condition très critique. Les 2 morts, Alison Parker, une reporter âgée de 24 ans, et le photographe Adam Ward, 27 ans, interviewaient en direct une entrepreneur quand le suspect s'est mis à tirer. La femme d'affaires a été soignée pour blessures. L'attaque s'est produite ce mercredi matin, tout près de Roanoke, dans le sud-ouest de la Virginie, à environ 375 km de la capitale fédérale, Washington DC. Crise des migrants en Europe, ferme réaction de l'Allemagne. Le pays ne fera preuve d'aucune tolérance pour les abjectes violences xénophobes, déclare ce mercredi la chancelière allemande Angela Merkel. Les détails avec Bagassi Koura.
Angela Merkel a qualifié à nouveau de honteuse et d'abjecte les violences qui ont opposé extrémistes et policiers dans la petite ville paisible de Heidenau durant le week-end. Selon l'AFP, avant, pendant et après sa brève allocution, la chancelière a été huée par des sympathisants d'extrême droite scandant « Traîtresse et nous sommes la meute ». Au cours de sa visite du centre de réfugiés à l'abri des micros et caméras, Mme Merkel devait parler avec des résidents, personnels et représentants des forces de l'ordre. L'Allemagne attend 800 000 demandes d'asile en 2015, soit 4 fois plus que l'année précédente. Si 60% des Allemands jugent que le pays a les moyens de les accueillir, les coups d'éclat en hausse de l'extrême droite ont choqué l'opinion. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a lui invité à Paris les pays en Europe et ailleurs à faire preuve de compassion et à faire beaucoup plus pour venir à bout de la crise des migrants.
En Syrie, le président Bachar al-Assad a déclaré qu'aucun observateur international ne serait admis dans le pays lors des prochaines élections. M. Assad s'est plaint de ce qu'il appelle l'intervention des étrangers dans les affaires intérieures de la Syrie. Il a fait cette déclaration durant un entretien télévisé au palais présidentiel à Damas. Le conflit ne prendra fin, a-t-il ajouté, que lorsque les pays étrangers cesseront leurs efforts visant à renverser le gouvernement syrien. En Afghanistan, on connaît maintenant l'identité des 2 soldats tués ce matin dans la province de Helmand, dans le sud-ouest du pays. Le porte-parole du Pentagone, le capitaine Jeff Davis, a dit qu'ils sont américains. Un communiqué de la mission de l'OTAN en Afghanistan avait annoncé un peu plus tôt la mort de 2 soldats de l'OTAN sans préciser leur nationalité. La coalition n'a pas précisé si les assaillants étaient des soldats afghans ayant retourné leurs armes contre l'OTAN ou des insurgés ayant infiltré l'armée afghane pour tuer des soldats étrangers au cours d'une attaque suicide. Voilà pour les nouvelles du monde. Et dans quelques instants, Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Ici, chez Ruben Orsil.
cœur de l'info sur VOA Afrique.